les classiques de Beyoncé sont sur Radio Rock. Pop R&B classique. Allow me to reintroduce myself. This is Ado. Ado Radio. Ado. Hip Hop R&B Radio.
Ladies and gentlemen, gentlemen. This is a Jazzy Fizzle. Production.
Naughty, funky, fresh. With my body so melodic, this beat rolls right through my chest. Everybody, Martin, Poppy came to party. Grab somebody, work your body, work your body. Let me see you one, two, three. Since the day I started, strike my stuff and yes, I flaunt it. Goodies make the boys jump on it. No, I can't control myself now. Let me do my 1-2 step. Come on.
I'm rocking the beat. I know you heard about a lot of great MCs, but they ain't got nothing on me. Because I'm 5'2", I wanna dance with you, and I'm sophisticated fun. I eat filet mignon, and I'm nice and young. Best believe I'm number one.
Tu pourras pas dire que j'ai pas fait des erreurs, j'ai toujours étouffé. Ça sera plus comme avant, on s'éloigne tout doucement. Plus comme avant, loin tout doucement. On s'est lancé des pics sans s'écouter, du coup la distance se fait sentir abusée. Tu me parles, tu me demandes de me décider, mais moi dans ma tête je veux juste vendre mes CD. Je t'ai donné la main quand tu doutais, j'ai fait briller ton cou, tes doigts quand tu boudais. Je t'ai bien écouté, ce qui m'a touché c'est quand tu disais que notre histoire était faussée. Tout ça, c'est du cinéma. Arrête tout ça, c'est du cinéma. Ce que t'as dit sur moi, ça m'a touché. Trop facile les choses à reprocher. Et tu pourras pas dire que j'ai pas fait des erreurs, j'ai toujours étouffé. Et ça sera plus comme avant, on s'éloigne tout doucement. Plus comme avant, loin tout doucement.
Dis-moi en parents, quel honneur, tu cries devant mes parents. Je t'insulterai pas quand j'ai qu'une seule parole. Les sentiments courts, c'est cadeau dans les parages. Le manque d'amour qui t'éclaira des carrés. J'ai des formidables stromailles. Me fais pas jurer sur ma vie. Je parle à une autre quand ça va trop vite. Je t'ai mis d'amour sur ma vie. Je peux plus ralentir, elle voudrait revenir, c'est mort. Je peux plus ralentir, elle voudrait revenir, c'est non.
Ce que t'as dit sur moi ça m'a touché. Trop facile les choses à reprocher. Tu pourras pas dire que j'ai pas fait. Tes erreurs j'ai toujours étouffé. Ce sera plus comme avant. On s'éloigne tout doucement. Plus comme avant. Tout doucement.
Ce que t'as dit sur moi ça m'a touché. Trop facile les choses à reprocher. Tu pourras pas dire que j'ai pas fait. Tes erreurs j'ai toujours étouffé. Ce sera plus comme avant. On s'éloigne tout doucement. Comme avant, tout doucement.
On ne se doit plus rien. Je ne garde que le bien. Je suis comme amputé d'une main. On ne se doit plus rien. On ne se doit plus rien. Maman, je ne garde que le bien. Je suis comme amputé d'une main.
Tout ça c'est réel. Tout ça c'est réel. Tout ça c'est réel. Ça brûle comme le feu de Los Angeles. Tout ça c'est réel. Tout ça c'est réel, maman. Tout ça c'est réel, ça brûle comme le feu de Los Angeles. Tout ça c'est réel. Tout ça c'est réel. Tout ça c'est réel, ça brûle comme le feu de Los Angeles.
Qu'on arrive à se développer intellectuellement. Et pas uniquement les livres de droit. Hein.
Mais qu'est-ce qu'ils vous répondent, les jeunes gens en question? Ils vous disent quoi, ou juste?
Ben, certains me disent « Ah oui, c'est vrai, mais bon, non, on est habitué aux écrans. » Et alors, c'est vrai que, quelque part, on peut aussi se former intellectuellement avec des documentaires Arte, avec des vidéos de qualité, mais la lecture, c'est quand même un élément très important. Et je voudrais, moi, proposer des solutions qui seront évidemment pas entendues par le gouvernement, mais
allez-y.
Par rapport à ma petite expérience. Je rejoins ce qui a été dit par le psychologue précédemment.
Par Dominique, oui.
par Dominique. Effectivement, je pense que un des biais qui génère ces problèmes de santé mentale, c'est qu'en fait, les jeunes ont l'impression que la vie est fictive, la vie est numérique, et ils développent une vie pour paraître et non pas pour être. Et je pense que il faut leur apprendre à ces jeunes à avoir confiance en eux et à vivre pleinement leur vie intérieure. Que l'important dans la vie pour être heureux, c'est ce qui se passe en nous, et pas à l'extérieur. Et donc, ça passe par le développement personnel, la pratique du sport, la philosophie, les activités en extérieur. Et là, on peut pointer du doigt des responsabilités. Ouais. L'État, avec des réglementations défaillantes. Les parents, effectivement, qui parfois délaissent leurs enfants dans la facilité d'utilisation
des
écrans.
Et des parents qui sont aussi sur leur propre écran toute la journée, hein, il faut le rappeler aussi. Il y a une valeur d'exemple négatif, là, dans l'histoire. Hein.
Oui. Bah, bien sûr, mais vous voyez déjà les effets des écrans sur les adultes. Vous voyez bien qu'on a plein d'adultes. Et nous-mêmes, parfois, on peut être confrontés à cette forme d'addiction aux écrans, de scroller les news ou les réseaux sociaux ou les Twitter et compagnie. Ça rend complètement débile, même des adultes. Ça rend addict même des adultes. Alors imaginez des enfants qui n'ont pas les ressources psychologiques pour résister. C'est aberrant.
On a bien entendu le message, Xavier. Je reviens. Merci, Xavier. Hein. Je reviens vers vous un court instant, Dominique. Vous êtes toujours là, j'imagine. Ce que vient de dire Xavier est très important. Hein. Il y a une prise de conscience à avoir sur cette question. Aujourd'hui, c'est une urgence.
C'est une urgence, mais ce qui est très intéressant, c'est finalement, je ne vais pas vous passer de la pommade, mais l'émission que vous êtes en train de faire est très intéressante parce que entre Xavier, qui a donné son point de vue, qui est
formidable.
Oui. Il apporte des solutions, il apporte une analyse qui est une analyse claire, logique et imparable. Moi aussi, j'apporte de mon côté des solutions. Vous avez déjà deux auditeurs qui sont capables de comprendre et d'apporter des solutions.
Et vous êtes aujourd'hui, tous les deux en situation en plus. Hein,
on est tous les deux en situation.
Chacun dans son activité.
Mais personne ne nous écoutera ou personne ne nous entendra, et c'est toute la société qui va en payer le prix, parce que la société de demain, la société de ces jeunes-là de demain, moi, elle me fait très peur, elle m'inquiète, mais vraiment au plus haut point. Mais je voudrais aussi mettre un bémol. Oui. Tous les jeunes qui sont sur leurs ailes ne passeront pas un acte délictuel, commettront pas un meurtre, ne sont des psychopathes en puissance.
Ce ne sont pas des délinquants en puissance, nous sommes d'accord, il faut le préciser.
Le jeune homme qui a commis cet acte épouvantable avait en lui d'autres pathologies qui étaient prééminentes, qui étaient préexistantes et qui ont été lâchées, développées et mises en action. Et on peut pas mettre ça sur le poids des réseaux sociaux, d'autant plus que je crois avoir entendu que ça n'était pas vraiment un fanatique des réseaux sociaux.
Non, c'est le mauvais exemple.
Voilà.
En plus,
donc c'est un mauvais exemple. Mais je pense que ce qui est intéressant, ça serait peut-être d'écouter le bon sens, la réalité de quelques professionnels, et puis mettre enfin un plan d'action. Et je conclurai avec quelque chose. Oui. Vous savez, les 8 années de en même temps que nous venons vivre, c'est des injonctions paradoxales. Acheter une voiture, mais utiliser les transports en commun. Manger ceci, mais attention.
Ça, c'est au quotidien, ça, Dominique. C'est en permanence.
Et ça rend fou. Oui. C'est la goutte, c'est la torture chinoise. Ça rend fou tout le monde. Oui. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose. Il faut laisser le libre arbitre. Il faut laisser les gens organiser aussi leur cérébralité autour de la logique. On ne peut pas leur dire achetez cette voiture, mais ne l'utilisez pas. Faites du vélo, mais attention.
Les injonctions contradictoires. Merci, Dominique. Merci pour toutes ces précisions. Merci de rappeler que effectivement nos adolescents, nos ados qui sont sur les écrans ne sont pas des délinquants en devenir. Non, mais c'est Xavier l'a bien rappelé aussi, c'est un sujet majeur. Il faut parler à nos jeunes, il faut leur montrer autre chose. Allez, 0 826 300 300, la vérité en face. Dans un instant, on va parler de nos impôts. Ouais, c'est un sujet permanent. Hein.
Partout, à Paris et en Ile-de-France, Sud Radio, plus 99.9. Try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home. I gained about 17 days. 'Cause there's nothing you can teach me. But I can't learn from
Radio, la vérité en face, Jean-François Aquili.
0-826-300-300, nous allons parler dans un court instant de la taxe Zucman. Et oui, nous cherchons toujours ces fameux 40 milliards, on a jusqu'à la mi-juillet pour savoir ce qui va sortir du chapeau du budget. Et là, c'est une taxe qui arrive au Sénat, je vous en dis plus dans un instant. Tout d'abord, nous jouons sur Sud Radio. Ben oui, dimanche, c'est la fête des pères. Et cette semaine, vous le savez, toute la journée, dans chaque émission sur Sud Radio, nous vous offrons un magnifique bracelet de la collection Lettres de la marque levent-à-la-française.com. Manière élégante et émotionnelle de célébrer les mamans. Ben oui, c'est la fête des pères, hein. on est à deux dans cette histoire. Enfin, attention, hein. Un bracelet qui vous accompagne toute votre vie, finition dorée, intégralement made in France, fabriqué en France, confectionné à la main, c'est assez magnifique. C'est donc ce cadeau que nous vous faisons gagner. C'est à vous de jouer, 826-300-300.
Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Aquili.
Alors l'attaque.
Si un jour tu pars, si un jour je te perds, n'oublie jamais combien je t'aime. Alors j'avoue. Depuis que t'es là, je n'ai plus peur de voir se lever le jour. Pourtant, je t'attendais pas, toi mon amour. Et si la vie nous sépare, alors ça ne vaut plus le coup. J'avoue. Mais j'avoue. Depuis que t'es là, je n'ai plus peur de voir se lever le jour. Pourtant, je t'attendais pas. Toi mon amour. Et si la vie nous sépare, alors ça ne vaut plus le coup. J'avoue.
Now we your touch, a song that made me cry. The drugs I've done, they never got me higher than the first time we met. There's nothing like the first time we met.
Promets, babe, j'arrive dans pas longtemps. face. Babe, viens voir la vie en vrai. Je connais pas ton ex, mais je sais qui va m'en vouloir. Babe, ici on connaît pas Gouma. On a des amis en commun, ils m'ont dit que t'étais dur, donc c'était moi bon courage. T'inquiète, je vais tout payer, hein. Oui, je vais tout payer. Pour éviter que pénave, obligé de tout payer. Ah, c'est promet, babe, je peux pas l'amener au spa. Si c'est ça qui t'intéresse, sorry, j'suis pas dans ça.
Planisphère, l'émission de géopolitique présentée par Pierre Verluise.
Nous avons parfois l'impression que la France et l'Union européenne sont bousculées par la mondialisation. Sans parler des États-Unis qui mettent en œuvre des taxes et les marchés. Dans ce contexte, la sécurité économique européenne devient-elle un enjeu de souveraineté? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Bruno Dupré, diplomate européen. Il s'exprime ici à titre personnel. Bruno Dupré est détaché par la France au service diplomatique de l'UE, le SEAE. Il y occupe la fonction de conseiller politique.
Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise.
Bonjour Bruno Dupré.
Bonjour.
Pour commencer, mettons-nous au clair sur les mots. Qu'est-ce que vous entendez par sécurité économique européenne ?
C'est un concept à la fois compliqué et aussi extrêmement simple. Il s'agit de réduire nos dépendances, d'un côté, et d'accroître notre autonomie stratégique, de l'autre, sur des secteurs clés. Et c'est un concept très largement partagé. Aujourd'hui, tant l'Inde que le Japon, que la Chine parlent de sécurité économique, également les États-Unis. Pour l'Europe, la clé, c'est de revenir sur nos dépendances dans trois domaines précis. Le domaine énergétique vis-à-vis de la Russie, nous sommes encore dépendants. Le domaine des technologies nouvelles vis-à-vis notamment de la Chine et pour la sécurité vis-à-vis des États-Unis. Le deuxième point, c'est que pour réduire cette dépendance, il faut passer largement par une réindustrialisation de notre économie. Donc vous voyez, sécurité économique, ça veut dire réduire les dépendances, accroître l'autonomie stratégique et faciliter la réindustrialisation de notre économie.
Tout ça au service d'une forme de souveraineté européenne. Alors comment on peut définir cette souveraineté aujourd'hui ?
Alors ce n'est pas la souveraineté telle qu'on l'entend au titre de la Charte des Nations Unies, la souveraineté territoriale, la souveraineté d'une nation sur son territoire. C'est beaucoup plus des souverainetés, j'allais dire, thématiques. Souveraineté sur l'énergie, souveraineté alimentaire, souveraineté dans le domaine de la sécurité. L'objectif, c'est d'obtenir plus d'autonomie dans des domaines clés qui sont des domaines qui nous permettent d'avoir plus d'indépendance dans le cadre de nos activités commerciales, économiques, financières, y compris pour la défense.
Mais c'est aussi la maîtrise de notre vie, finalement, au quotidien et demain.
Absolument.
Bruno Dupré, ne tournons pas autour du pot. En matière de sécurité économique, quels sont les enjeux pour l'UE ?
Je crois qu'on voit les enjeux en regardant la définition. Sécurité économique, plus d'indépendance, plus d'autonomie stratégique et une volonté réelle de réindustrialisation. Je voudrais revenir sur ce point, la réindustrialisation. Je crois qu'elle est co-substantielle à l'idée de sécurité économique. Il y a une étude de Capgemini qui vient de sortir, de 2024, qui dit que le montant prévu de la réindustrialisation entre 2024 et 2027 sera d'environ 3 500 milliards de dollars. Donc c'est des véritables investissements qui vont être faits. Et la moitié de cette somme sera dédiée à la réindustrialisation sur les territoires nationaux. Donc on voit qu'ici, il y a un véritable enjeu, pour les économies qui sont en concurrence. Et évidemment, tout le monde n'a pas la même façon d'aborder la réindustrialisation. Si on prend les États-Unis aujourd'hui, on s'aperçoit que pour eux, la réindustrialisation passe par les droits de douane. C'est-à-dire faire en sorte que le coût soit tellement élevé pour les pays qui exporteraient, que en fait, il serait préférable pour eux d'investir directement sur le territoire américain.
C'est ça le calcul.
Derrière la manière brutale de l'administration Trump, il y a deux objectifs. La première, c'est d'obliger les États tiers à négocier dans une situation de faiblesse. On l'a vu sur l'accord minier entre le président Zelensky et le président Trump. Je vous ai donné 300 milliards pour la guerre, vous allez me donner du minerai. Et la deuxième, c'est faire en sorte que l'incertitude chronique est telle sur les marchés, elle est quasiment structurelle, que les entreprises sont très fortement incitées à venir s'installer aux États-Unis au lieu d'importer ou au lieu d'exporter. Et là, on voit une grosse différence avec ce qui s'était passé sous la présidence de Biden. Biden avait fondé sa réindustrialisation autour de deux législations très importantes, l'IRA, Inflation Reduction Act, et puis le CHIPS Act pour les semi-conducteurs. C'était attirer les investisseurs étrangers sur le territoire américain, mais grâce à des subventions et des aides, non pas à travers les droits de douane. Donc on voit ici une très grosse différence d'approche entre l'administration précédente et celle-ci d'aujourd'hui. Trump avait annoncé qu'il allait certainement revenir sur ces deux législations. Il n'en saura rien parce qu'il s'est aperçu que c'était un véritable succès dans la capacité à attirer des investisseurs à s'implanter sur le territoire américain. J'en viens maintenant à l'Europe. Qu'est-ce qu'elle fait pour la réindustrialisation de son côté? Eh bien, il faut lire le rapport Draghi de la fin décembre 2023. Et le constat est assez alarmant. Il est triple. Une trop grosse dépendance énergétique, un retard technologique conséquent et une fragmentation des marchés, de la défense, de l'énergie, des communications, qui fait qu'on est à la traîne sur ces trois sujets clés. Et la réponse, dit-il, elle est sans équivoque. Il faut des investissements massifs, une union des marchés, des capitaux, pour trouver de l'argent, on va en parler dans un instant, et puis donner la priorité à certaines industries, la défense et l'énergie. Alors il faut bien comprendre que ce mouvement de sécurité économique, de réduction des dépendances, de plus d'autonomie stratégique, de réindustrialisation, ne va pas se faire par un mouvement spontané des entreprises. Il faut une politique industrielle. Et une politique industrielle telle que la pratiquent les Américains très sciemment, ou la Chine, ou le Japon, eh bien l'Europe est en train également de faire la même chose. Elle doit mettre en place, elle est en train de mettre en place une politique industrielle européenne qui lui permettra de réduire ses dépendances, de rattraper éventuellement le retard technologique, tout ça on va en parler, et surtout de faire face à la double transition qui l'attend, la transition climatique et la transition digitale.
Trouver de l'argent, dites-vous. Où est-ce qu'on trouve de l'argent pour mettre tout ça en œuvre?
Ça, c'est la question des mesures. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que fait l'Union européenne concrètement? En réalité, aujourd'hui, aucun État européen n'est capable à lui seul de faire face au dérèglement du monde. Il n'y a guère, à mes yeux, que l'Union européenne qui en soit capable. À moins, évidemment, de remettre le destin de l'Europe dans les mains d'une puissance étrangère ou de plusieurs puissances étrangères. On peut aussi faire ce calcul-là. La question qui se pose, c'est est-ce que les États membres sont prêts? Est-ce que l'Union européenne est prête? Est-ce qu'elle a les outils pour ce faire? Il y a depuis 4 ans une véritable boîte à outils qui a été mise en place par l'Union européenne.
Thank you. On fait taire les intellectuels. Je m'y attendais. Bolchevique.
Tous les dimanches, en direct de l'Européen, de 18h à 20h.
Nova.
And I know what time it is.
Thank you.
have no time to play games.
Sometimes I flow staccato, trip you a vibrato, while you be acting macho. I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not meant to fall in, but I let you play them anyway. Sometimes I flow staccato, strip you a vibrato, while you be acting macho. I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not fit to fall in, but I let you play them anyway. Sit, hear the clock tick, watch the leaves on the plant flick from the fan above the room and I lit. Head trip, deliberate, cease fighting the feeling and submit, flow with it like the path pre-existing, hidden codes masonic. They peep us like a webcam from the pyramid's attic, pass from hand to hand, let's say coincidence, or better yet sixth sense, my instincts telling me to back up from that handshake that was intense. My instincts telling me to back up from that handshake that was intense. Brush it off and commence, blame it on myself tripping till the shit hits the fan, cause I steer from the plan. About face and Billie Jean step into place, throw my coat on the hook, recap the time that I waste. I know that spitting's a bad habit, but I can't help the taste. Still searching for the clues as it becomes a cold case. Procrastinator till I think to move the shit from your face. Reveal the naysayer, say ya, say ya, say ya. Sometimes I flow staccato, strip you a vibrato, while you
drug breakdown. Wish I knew what cost it was. The whiskey open, were you in my sight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I'm in a way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here, drunk, washed up in Austin. Wish I knew what cost it was. The whiskey moment, were you in my sight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I'm in a way back to my leg, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here, drunk, washed up in Austin.
Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Comment c'est marrant.